Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette émission spéciale Masterclass sur comment investir en 2026. Nous allons voir les allocations, la volatilité, le rendement, les risques associés bien entendu et la psychologie qui en bout de fil la plupart du temps nous fait faire beaucoup de bêtises et tous les biais qu'on a cités un bon nombre de fois pour ceux qui suivent plus ou moins assidûment autour de cette chaîne. Donc aujourd'hui c'est un petit peu l'aboutissement d'un portefeuille que je me suis constitué pour moi au travers du temps et que j'espère pouvoir développer comme ça en 2026 et vous donner des exemples de pourquoi certains choix sont parfois plus judicieux que d'autres et notamment c'est pas tout le temps le risque maximal qui prime puisqu'il faut bien avoir en tête que chaque rendement aussi important soit-il vous fait courir systématiquement un risque derrière. En guise de disclaimer donc en introduction de cette vidéo, elle ne constitue pas un conseil ou incitation à l'investissement et ne pourrait être interprétée autrement que comme un support à visée pédagogique. Il s'agit d'un portefeuille à allocation personnelle, le tout afin d'imager les propos. Vous devrez individuellement fournir ce travail d'allocation en fonction de vos propres moyens, de votre horizon de temps, ainsi que votre situation financière et familiale. Partez toujours du postulat que les choses ne se passeront jamais comme vous les aviez imaginées. Soyez réaliste, pragmatique quand il s'agit de vos finances, voire même un petit peu pessimiste, et vous verrez que la plupart du temps, on se laisse surprendre positivement par les marchés. Nous sommes en 2026 et donc dans un contexte macro-géopolitique des plus complexes. Et donc la question à laquelle on cherche à répondre, c'est comment construire un portefeuille résilient? Quelle allocation sur quel support? Rendement cible, la volatilité, les risques associés, ainsi que la psychologie et les biais que nous rencontrerons au cours de notre vie d'investisseur. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter le portefeuille que j'ai nommé Tempus Fugit. Donc pour ceux qui ont fait latin, notamment au collège, en langue secondaire, eh bien voilà, un petit clin d'œil. Pour les autres, ça vous donnera déjà de la matière pour aller voir un petit peu de quoi il en retourne. Le but au travers de ce portefeuille, donc, c'est de réduire la volatilité au profit de la sérénité. La plupart du temps, quand on observe quelles sont les populations qui regardent la chaîne sur YouTube, c'est 35-40 ans en moyenne, donc on peut faire une grosse fourchette de 25 à 45, mais le gros de notre auditoire aujourd'hui se situe entre 35 et 45 ans. Donc on a pour objectif sur ce portefeuille d'aller chercher plus 7% de rendement annuel, ce qui potentiellement, selon les pays où vous vous trouvez, pourrait vous faire un net d'inflation plus ou moins autour de 5%, mais aujourd'hui on va parler de rendement brut non net d'inflation. Donc on prend 7% auquel il faudra minorer bien entendu l'inflation en fonction du pays dans lequel vous vous trouvez. Avec cet objectif de 7% par an, le capital double tous les 10 ans environ. Le maximum drawdown qu'on accepte est de moins 20%. La diversification géographique et sectorielle. Une répartition bien entendu multi-actifs, que ce soit du côté des actions, des ETF, des obligations, les métaux précieux avec l'or et enfin le Bitcoin. Un petit peu de cash stratégique en cas de crack de marché. Et enfin une allocation qu'on fera de façon programmée au travers d'un DCA sur 6 à 12 mois, mais qu'on va réaliser de façon totalement smart pour essayer de coller à ce qui pourrait se passer en 2026. Bien entendu, la projection qu'on va en faire dans les prochaines vignettes peut se passer comme ne pas se passer, mais ça nous donne à peu près la physionomie que l'on pourrait suivre si un jour il y avait effectivement un recul de marché de type, comme on l'a vu en avril 2025, des tarifs de Donald Trump. Et donc au jeu des petites devinettes au début, j'ai essayé pendant très longtemps de jauger justement de la pertinence d'aller chercher les fameux 8 à 10% du S&P 500, de l'ETF Monde que constitue et que conseille aujourd'hui bon nombre de personnes sur les réseaux sociaux. Or, à partir du moment où on est investi à 100% en actions au travers des ETF, que ça soit le S&P 500 ou le Monde, puisque ça représente un panier aujourd'hui de 1200-1300 sociétés pour le Monde et pour le S&P 500, comme son nom l'indique, pour les 500 plus grosses sociétés américaines. Donc, dans tous les cas, ça reste comme si on était exposé 100% action. Et donc la problématique à laquelle on est confronté quand on est impliqué comme ça à 100% action, c'est que ça induit derrière un drawdown qui est bien au-delà du tenable et notamment sur des crises de type Internet 2000 ou comme les subprimes en 2008 ou encore comme au moment du Covid en 2020. Donc pour vous donner un petit exemple de ce fameux enjeu des plus 1% sur votre rendement, passer simplement de 7 à 8% par an de rendement, ça induit un maximum drawdown qui augmente considérablement, de autour de 18-20% à moyenne à 25-30%. Et accrochez-vous bien, si on passe de 8 à 10% par an de rendement, ça induit un maximum de redon intenable de moins 50%, avec une crise effectivement telle que celle qu'on vient de citer. Le sweet spot se trouve donc finalement pour un investisseur adulte de 30-40 ans qui ne souhaite pas prendre un risque maximal autour de 7% par an, avec une baisse maximum autour de moins 20%, bien plus acceptable psychologiquement qu'un moins 40, moins 50%. Et de plus, c'est là que le bas blesse d'un point de vue purement mathématique. Il est à noter qu'en cas d'exposition pleine au marché, que ça soit sur le S&P ou le World, comme on vient de le dire à l'instant, se prendre moins 50%, ça peut mettre 3, 4, 5 ans, plusieurs années à être totalement recouvré. Quand on parle de moins 50%, n'oublions jamais que ça nécessite de réaliser plus 100% par la suite pour revenir tout juste à l'équilibre. Donc on peut, à partir de ces chiffres très simples et basiques, se dire qu'effectivement, un moins 50%, le temps d'être totalement recouvré et de revenir à plus 100% de performance, quand bien même les années post-crack la plupart du temps sont assez favorables, puisque derrière, plus on descend, plus on peut avoir un rebond qui est important. Mais pour revenir à ce certain équilibre, eh bien même si pendant un an, deux ans, trois ans, on fait du 20% au lieu de 8-10, ça va mettre plusieurs années en effet à revenir à flot totalement, et c'est ce qu'on essaie d'éviter justement en allant chercher un drawdown maximal de 18 à 20% plutôt que de se prendre des tolls en cours de route de moins 40, moins 50%. Donc dans la pratique, puisque je pense que c'est aussi ce qui nous intéresse aujourd'hui, il est à noter qu'une personne domiciliée sur le sol français pourra bénéficier la plupart du temps du PEA, plan épargne action, en plus de son CTO, compte titre ordinaire. Si vous êtes dans d'autres pays, Belgique, Suisse, Portugal, Luxembourg, je ne sais quoi, bien entendu, appliquez en fonction de vos propres poches d'investissement, et donc on ira essentiellement sur un compte titre ordinaire. À noter que le PEA, pour les Français en tout cas, c'est 150 000 euros maximum. Donc pour une personne qui aurait du capital à déployer, la plupart du temps, c'est vrai que les Français utilisent en priorité le PEA pour des questions fiscales, mais aujourd'hui, voilà, il y a débat entre PEA, CTO. Là aussi, je vous laisse seul juge de votre côté, mais tant qu'il y a un petit avantage à aller chercher au bout de X années sur le PEA, pourquoi pas. Donc premièrement, on va avoir donc dans cette allocation des actions via le monde. Alors là aussi, je donne dans les grandes lignes mon exposition à aujourd'hui. Après, si vous préférez prendre du S&P 500 au lieu du monde, être plus exposé, moins exposé pour les États-Unis, etc., c'est vous qui l'en regardez. Dans tous les cas, comme je disais tout à l'heure, c'est mon portefeuille type à moi. Bien entendu que je ne peux que vous encourager systématiquement à aller premièrement faire vos propres recherches de votre côté et à challenger absolument tout ce qui est dit aujourd'hui dans cette vidéo, mais surtout à créer votre propre allocation derrière. Là, ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est une sorte de basique qui démontre que oui, on peut aller chercher 7% tout en ayant un équilibre autour de moins 18, moins 20 si jamais tout se casse la gueule. Donc cette action monde via ETF, moteur principal fortement exposé US, à hauteur de 45% du portefeuille, donc qui fera 100%. Action Europe via ETF, croissance zone EU à plus 10%. Marché émergent via ETF avec diversification géographique. Et là aussi, attention, puisque la plupart du temps, on a besoin aussi d'inclure le Japon. Alors, il y a des émergents qui l'incluent, mais il y a un bon nombre qui ne l'incluent pas aujourd'hui. Donc, dans les 10%, si vous souhaitez également être tout simplement présent sur la zone du Japon, faites attention à mettre 2-3% en fonction de ce que vous voulez sur cette zone. Obligations courtes et longues durées en termes d'amortisseurs, et ça, c'est ça qui fait toute la différence, en plus de l'or et en plus de tout le reste, pour permettre de ne pas avoir l'intégralité du portefeuille qui se fait exploser moins 40, moins 50 quand il y a un crack du côté des actions. Donc ça, on va y mettre à peu près 15%. L'or physique ou ETF, donc hedge inflation et systémique pour le coup, 10%, ce qui permet là aussi, bah, comme on l'a vu, c'est pas quelque chose qui va vous générer du rendement au travers du temps, l'or, mais c'est un actif anti-système et anti-inflation quelque part. Donc on ne peut plus se permettre aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, effectivement, de ne pas avoir d'actif anti-inflation tout court. Si vous préférez le Bitcoin, ou si vous préférez avoir des obligations, ou si vous préférez avoir des actifs purement dits anti-inflation, après c'est vous que ça regarde, mais il faut essayer effectivement d'avoir ce genre d'amortisseur au sein d'un portefeuille. Bitcoin, anti-inflation et systémique, c'est difficile à dire aujourd'hui. Avec la prise de contrôle de la TradFi et ses ETF et tous ces nouveaux produits, donc on mettra 5% pour l'instant dans ce portefeuille qui se veut résilient. Et je viendrai dans les prochaines vignettes à 2-3 petits points sur lesquels on peut effectivement interagir. Et enfin, cash, fonds monétaires, les fameuses munitions en cas de crack, 5%. Sachant que là, par rapport à cette structuration en particulier, dans les obligations, 15%, vous pouvez déjà avoir du monétaire et vous pouvez remplacer aussi les obligations par du fonds que vous détiendrez au travers d'une assurance vie, les fameuses unités de compte, etc. Donc là aussi, je ne rentre pas volontairement trop dans les détails aujourd'hui puisqu'il y aura d'autant de situations que de personnes et d'investissements et de portefeuilles. J'essaie de rester sur ce que moi je fais à aujourd'hui. Pourquoi ce choix est-il judicieux? En cas de crise de type 2008, les actions monde reculent de moins 50%, l'Europe moins 55%. Les marchés émergents moins 60, les obligations progressent de plus 5 à plus 10, l'or de plus 10 à plus 20, le cash autour de 0 et enfin Bitcoin, on a fait une moyenne mal taillée autour de moins 70%. Le résultat final donne moins 18 à moins 22% lors d'un crash pour ce portefeuille pour plus 6,8 à 7,2 annualisé sur des dizaines d'années. En termes d'implantation, on va partir du principe également qu'on a accès à un PEA, mais tout ce qui est dit ici peut également être fait sur un CTO, compte titre ordinaire ou une assurance vie. Donc on aura une répartition au sein du PEA pour les ETF World et marchés émergents ou bien Europe au choix en fonction des disponibilités. Il est à noter aussi également que pour les plus fortunés d'entre vous, eh bien, le PEA est limité à 150 000 euros. Donc voilà, ça peut également être un frein et derrière on est obligé de passer finalement du côté du CTO. Le CTO lui-même qui pourra contenir les ETF globaux sur les obligations ainsi que les ETF or à réplication physique et Bitcoin Spot via ETP. Donc là aujourd'hui, il y en a entre 6 et 8 je crois de disponibles en Europe dont en France au niveau du Bitcoin. Là aussi, si vous avez besoin dans une prochaine émission qu'on donne tous les easy-in, etc. pour retrouver les bonnes lignes, voilà, on peut tout à fait le faire et aujourd'hui on se concentre donc sur les allocations. En outre, pour le cash dormant, une assurance vie peut faire l'affaire afin d'y placer une partie des obligations, 5 à 10% max, tout en optimisant la fiscalité et potentiellement la transmission. De même que si dans 10 ans, 20 ans, vous avez besoin tout simplement petit à petit de sortir du cash, vous pouvez tout à fait le faire pour vivre dessus au niveau de votre assurance vie en rachat petit à petit. Le but étant de laisser travailler bien entendu le reste avec un objectif d'ici la retraite. Pour ceux qui ont 30 ans, eh bien ça sera dans 30-35 ans. Pour ceux qui ont 40 ans, ça sera dans 20-25 ans. Et comme ça, vous arrivez psychologiquement à vous projeter à peu près sur ce que sera justement votre patrimoine d'ici là et surtout ce que vous pourrez vous sortir petit à petit pour vivre sur ce capital qui aura, on l'espère tous, fleuri. Donc vous allez me dire maintenant qu'on a vu eh bien tout simplement qu'est-ce qu'on pouvait faire en termes de répartition, comment on s'y prend. Et c'est vrai qu'en 2026, plus que jamais, dans ce contexte de marché tendu, incertitude géopolitique croissante, le tout avec des indices qui sont déjà très hauts, eh bien la moins pire des manières semble être encore et toujours, et notamment pour nous autres petits particuliers, le fameux DCA, Dollar Cost Average, qui paraît être une méthode ayant fait ses preuves au travers du temps. Le but étant de dispatcher la même somme sur 6 à 12 mois roulants. Ce modèle de fonctionnement peut être très largement amélioré en payant en cas de recul des indices de moins 5, moins 10, moins 15, etc. Plus l'indice recule, plus l'accélération du DCA peut s'effectuer. Et on passe à un exemple concret. Donc partons avec un capital de 100 000 euros. Alors ça peut être 5 000, comme 10 000, comme 1 million. J'ai pris 100 000 puisque c'est un compte rond et qui parlera à tout le monde. 100 000 euros de capital de départ à injecter, soit 8 333 euros par mois sur 12 mois. Répartition, allocation, vous l'avez sur les vignettes précédentes. Le premier mois, le marché est stable, 8 333 euros sont injectés. Le mois suivant, le second mois, eh bien, le marché est en hausse de plus 5%, génial. Mais par contre, on va optimiser notre DCA et ça débute directement ici en versant que la moitié des 8 8333. Le troisième mois, on commence à avoir un début de stress de marché. En plus des plus 5 qu'on avait gagné précédemment, on est désormais à moins 5 du côté des indices. Donc ce coup-ci, on rattrape ce qu'on n'avait pas mis quand le marché était en hausse. Et donc on multiplie par 1,5 ces 8333. On vient récupérer le 0,5 qu'on n'avait pas mis sur le second mois. Le mois 4, ça y est, ça se grippe. Stress intense, moins 10%. On multiplie par 2 l'allocation de 8333. Le cinquième mois, panique absolue, capitulation, bas de marché, moins 20%. On multiplie par 4 les 8333. Et le sixième mois, reprise, léger rebond, plus 5%. On met les derniers 8333. Ce qui fait que ce total a été injecté en 6 mois au lieu de 12, bénéficiant de la période de baisse importante. Et derrière, on va voir que ça peut avoir un impact assez important. Donc dans cet exemple de DCA intelligent, le but est de lisser au mieux son entrée par rapport au risque d'un mauvais timing qui reste imprédictible. On peut qualifier ça de smart DCA. Vous pouvez tout à fait le confronter à un lump sum, mais je peux vous garantir que malheureusement pour nous, si vous aviez par exemple 100 000 euros à investir, on ne sait pas, un héritage ou quoi que ce soit qui vienne de tomber, il est vrai que les études, la plupart des études, sur 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, et au plus l'horizon de temps est lointain, au plus c'est vrai bien entendu, on peut avoir, peu importe comment on prend les choses, le lump sum, c'est-à-dire d'investir cette somme en une seule fois sans se retourner, sans regarder si les marchés sont hauts ou quoi que ce soit, on aura certainement beaucoup plus d'argent que ce qu'on l'a mis 10, 20, 30, 40 ans au préalable. C'est clair et net que la plupart des études convergent là-dessus. Ce qu'oublie de vous dire ces études, c'est que si vous tombez malheureusement pour vous sur un point haut de marché et qu'on se prend un 2000, 2008, 2020, derrière vous allez mettre des années à remonter à ne serait-ce que le niveau sur lequel vous vous trouviez, et c'est des années de stress important sur lequel vous allez voir votre capital à moins 40, moins 50%, etc. si vous aviez choisi d'être pleinement investi du côté des actions. Et ça, c'est ultra destructeur puisque c'est quelque chose qui va vous pousser finalement psychologiquement à la faute. Et donc, d'un point de vue des biais psychologiques, il y a tout un tas de mécanismes qui vont se mettre en place pour voilà, soit vous faire fuir, soit vous rentrer dans un déni complètement fou, vous allez rentrer dans cette aversion à la perte, etc. Et vous ne tiendrez pas les quelques années qui vous séparent justement de revenir à votre point d'entrée, quand bien même vous aviez cette projection mentale de vous dire je suis là pour 20, 30, 40 ans. Et comme on dit souvent, de mettre de l'argent qu'on peut se permettre de perdre, etc. C'est pas du tout une phrase qui est propice à l'investisseur avisé. On met de l'argent et on réfléchit comment on déploie son argent sur les marchés uniquement pour gagner de l'argent. Certes, la perte en cours de route peut faire partie et l'échec de ce cheminement d'apprentissage qui est long, périlleux et pénible, mais je peux vous garantir que entre un moins 10, moins 20 à un moins 40, moins 50, notamment pour la bourse traditionnelle, ça fera une énorme différence sur votre stress ambiant et sur la façon dont vous appréhendez votre portefeuille qui peut potentiellement vous pousser à vendre finalement alors que c'était le moment parfait justement pour mettre les bouchées doubles. La bonne nouvelle pour vous, c'est que ce DCA intelligent vous permet d'alimenter plus conséquemment en cas de baisse importante, de gagner sur le temps prévu à l'origine de 12 mois de DCA total non optimisé, le tout en bénéficiant pleinement de la reprise du marché sans temps mort, se remettre d'une perte temporaire plus rapidement tout en étant et restant exposé, d'où l'importance de toujours avoir une poche de cash à disposition au-delà de ce fameux DCA programmé. Alors je vous vois venir les petits crypto bros en vous disant ok, 5% de Bitcoin t'es bien mignon, mais nous on est là à la fois pour souffrir et à la fois pour voir notre portefeuille faire un peu le yo-yo. Alors bien entendu que vous pouvez augmenter significativement la part de crypto ou de Bitcoin que vous souhaiterez conserver dans une allocation d'un portefeuille à 100% global, mais aujourd'hui, au travers de différentes études et au travers de pas mal de recherches qu'on a menées également nous de notre côté, on peine à voir les avantages en fait d'avoir plus de 10 à 15% dans un portefeuille global en crypto-monnaie. Ce portefeuille qui a été présenté aujourd'hui est relativement résilient et peut paraître défensif pour une personne qui veut s'exposer plus largement aux cryptos. Donc vous avez cette possibilité en partant des 5% d'origine en Bitcoin d'augmenter relativement significativement de 10 à 15% au total. Attention, c'est maximum 15% puisque au-delà, ce fameux équilibre naturel va voler en éclats. Et en fait, tous les points que vous allez rajouter en crypto-monnaie potentiellement en Bitcoin ou en autre chose, c'est quelque chose qui peut nuire au long terme par rapport à la volatilité globale de votre portefeuille et qui pèsera de façon beaucoup plus importante, exactement comme si vous aviez par exemple un Nasdaq sous nitroglycérine avec une volatilité type qui va se faire en écart de dizaines et de dizaines de pourcents, parfois même en centaines de pourcents. Donc admettons que vous preniez 10% au lieu des 5% d'origine, eh bien on pourrait y voir une allocation autour de 7% en Bitcoin, tandis que les 3% restants seraient dispatchés à la guise sur des actifs tels que ETH, Sol, AAV ou bien HYPE. Il est à noter que ce classement dégressif n'est pas anodin. Aujourd'hui, ETH est la seconde crypto-monnaie du marché. Sol s'est également bien comporté. AAV, leader de la finance décentralisée, mais traverse ses propres crises internes. Et enfin, HYPE, qui a transcendé ce cycle, mais qui est bien trop jeune pour y allouer plus de 0,5 à 1% du portefeuille, bien entendu. Donc on appelle ça des satellites. Votre Bitcoin, c'est un peu l'ISS, c'est vraiment la maison mère. On y met, quand on veut voilà, uniquement du Bitcoin, 5% dans le portefeuille d'origine tel que je l'ai fait aujourd'hui. Si vous montez à 10% en crypto, on va à peu près allouer 70-75% en BTC, donc 7%. Et si on monte à 15%, il y aura à minima 10 à 12% en BTC toujours, et le reste viendra combler comme ça, sachant que le choix final revient toujours à l'utilisateur, mais cela reste dans une optique de démontrer que, in fine, peu importe le choix que l'on fera, l'immense majorité des altcoins ne battront pas au long terme Bitcoin, et le tout avec un risque de ruine beaucoup plus important, puisque c'est quelque chose qui n'est pas forcément abordé aujourd'hui. J'essaie de vous synthétiser énormément, mais c'est des semaines, c'est des mois de recherche qui vous sont retranscrits comme ça, en quelques slides, pour que ça soit le plus digeste possible pour vous. Mais je peux vous garantir que derrière, on a vérifié un bon nombre de fois pour à la fin avoir quelque chose qui tient et qui n'est pas juste des mots jetés en l'air. On essaie de prouver en fait, en systématiquement confrontant les hypothèses, les thèses, etc. pour voir derrière si ça fonctionne, si ça fonctionne pas. Et à partir du moment où on voit que à un horizon de temps de 4 ans, peut-être 6, 8 ans, quand on observe un peu le comportement des altcoins, c'est 99% qui vont à la cave. Donc aujourd'hui, si vous faites ce choix de rester investi pleinement sur le marché crypto, eh bien déjà, bonne chance à vous, puisque je pense que l'enjeu au final de ce fameux risque de ruine est beaucoup plus important au travers du temps que de juste détenir comme ça un fonds de portefeuille en Bitcoin. Mais derrière, ayez bien conscience que le risque que vous prenez, certes, peut vous offrir un gain complètement substantiel tel qu'on l'a vu ces dernières années, et bien que ça soit somme toute relatif, puisque au fur et à mesure du temps qu'on avance sur cette flèche temporelle, je pense que le marché crypto offrira de moins en moins les rendements qu'on a pu observer par le passé. Donc à vous de jauger et de juger le plus pragmatiquement possible du risque maximal que vous souhaitez une fois de plus allouer à votre portefeuille, dont cette poche spécifique à la crypto. Pour plus de granularité en fonction de votre âge et de votre situation, dans un prochain format similaire, nous traiterons, en nous basant toujours sur la même dynamique de maximiser le couple ratio risque-rendement-stress, un portefeuille ultra défensif, 5% par an, pour 12 à 15% de chute maximale. Un portefeuille agressif avec, comme on le disait tout à l'heure, 100% d'actions, voire d'ETF, 8 à 10% par an pour moins 40 à moins 50% de drawdown. Mais on va essayer de trouver le sweet spot entre 8 et 10% pour peut-être venir chercher, aller moins 35% de drawdown maximale, tout en étant pleinement investi du côté des actions, mais en essayant voilà, d'avoir un corps qui sera du côté des actions américaines et peut-être des petits trucs, notamment sur des minimum volatility ou des actions quality, etc., de venir contrebalancer le maximum drawdown pour pas complètement tilter le jour où effectivement l'ensemble du marché action nous fait moins 40 à moins 50. Et enfin, on fera un troisième qu'on pourrait qualifier de jeune portefeuille et pas moins aberrant, comme dirait ce bon vieux GMK, des crypto bros, avec un all-in crypto action. Le risque maximum avec un maximum drawdown de moins 70 à moins 90%. On le fera pour l'exercice, mais ce dernier portefeuille fera l'objet d'une étude comparative pour bien démontrer qu'être investi à ce jour à 100% en crypto, tout comme être investi à 100% en actions, présente un risque de perte de capital supérieur à ne pas être investi totalement sur ce marché qui lui-même représente un risque de ruine trop important. Et là, je parle bien évidemment du marché crypto. Là où ça peut paraître même un petit peu contre-intuitif, c'est que être investi à 100% en actions peut représenter sur 10 à 20 ans, là aussi on a fait des simulations de Monte Carlo et tout ce qui va bien, une performance légèrement inférieure à un portefeuille qui lui bénéficiera d'amortisseurs tels que les cités dans cette présentation, que ça soit l'or, que ça soit les obligations, etc. La volatilité également vous faisant sortir en cours de route car elle est insupportable à tenir psychologiquement. Donc même en faisant abstraction de l'aspect psychologique qui va vous faire faire tout et n'importe quoi en cours de route, factuellement et pragmatiquement, il y avait un écart sur comme ça une allocation de 100 000 sur une vingtaine d'années où à la fin on arrivait à 1,9 million à peu près en étant 100% du côté des actions et autour de 2 millions, donc il y avait un écart de 100 000 euros. Vous allez me dire, c'est pas énorme, je suis d'accord en termes de papier pur et dur d'être investi sur un portefeuille résilient par rapport au fait d'être 100% action, il n'y avait que 100 000 euros d'écart. Mais par contre, on avait un portefeuille qui, en cours de route, on avait simulé deux cracks de type 2000-2008, avait baissé deux fois de moins 40, moins 50%, pendant que l'autre n'avait baissé que de moins 20. Et donc, il reprenait beaucoup plus vite. Et à la fin, psychologiquement, eh bien, vous arrivez au même résultat, voire même 100 000 euros un petit peu mieux au bout de 20 ans, en ayant eu du 7% par an et en baissant maximum en cas de crise que de moins 20, par rapport au portefeuille où vous êtes 100% en action et vous allez avoir un résultat sensiblement quasi identique, comme on vient de le dire, mais derrière en vous payant comme ça une fois tous les 10 ans ou quand ça arrive, un moins 50% sur le portefeuille. Et ça, je pense que psychologiquement, c'est déjà beaucoup plus dur à tenir. Donc cette émission touche à son terme. J'espère qu'elle vous aura plu, que ça vous aura donné de la profondeur de votre côté sur un portefeuille qui reste personnel. Toujours pareil, il n'y a pas de conseils sur la chaîne ou quoi que ce soit. Ça fait désormais quelques années qu'on est là et qu'on essaie de se tirer vers le haut et de voir fondamentalement ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et aujourd'hui, c'est vrai que ce portefeuille qu'on pourrait qualifier de portefeuille un peu comme celui de Ray Dalio, All Weather, bien que lui serait plutôt encore plus du côté des obligations avec un 70-30 voire un 60-40 entre les actions et les obligations. Donc le but aujourd'hui, c'est de créer votre propre portefeuille, de créer votre propre volatilité acceptable en fonction de ce que vous rencontrerez en cours de route et de comment vous appréhenderez vous-même votre propre psychologie. Et à partir du moment où vous êtes honnête avec vous-même sur cet aspect-là et que vous vous confrontez au plus tôt possible, et je pense que du côté des cryptos, on y a été confronté et pas qu'un peu à cette volatilité complètement monstre qui vous fait sortir un petit peu de vos gonds et qui vous démontre à quel moment vous êtes le plus mal à l'aise et à quel moment vous commencez à faire des petites carabistouilles de votre côté qui, derrière, vont imputer très largement au long terme votre performance. Je crois que dans la dernière émission que j'avais vue, je ne sais plus si c'était Finari ou peu importe, il y avait une personne qui parlait, qui était doctorant en finance et qui avait dit qu'on pouvait estimer à 1-2% à peu près de perte de performance. Je ne sais pas si ça ne pouvait pas même monter à 3% par an. Au long terme, le fait d'une personne qui serait active sur ses investissements par rapport au fait de laisser ça couler sur un simple ETF ou ce genre de choses. Donc au plus tôt, notamment pour notre cœur de communauté qui a 30-40 ans aujourd'hui, la famille et qui n'a pas envie de se casser la tête sur les graphiques ou de suivre les informations finance au quotidien en se prenant la tête sans arrêt de pourquoi je rentre, pourquoi, comment, machin, qui veulent un truc en autopilote, c'est exactement le portefeuille que j'ai essayé de restituer, mon portefeuille aujourd'hui, avec la répartition telle qu'elle existe et qui, j'espère, eh bien, nous apportera une certaine sérénité après avoir été malheureusement baptisé pour bon nombre d'entre nous du côté des cryptos ces dernières années et un marché qui certes parfois a su se montrer porteur et des fois aussi a su se montrer extrêmement destructeur en termes de valeur. Sur ces belles paroles, ce Laïus s'arrête ici pour aujourd'hui. On vous donne rendez-vous très prochainement pour des nouveautés sur la chaîne, notamment un format long qui j'espère vous plaira. Merci encore à tous, je compte sur vous pour le pouce et le commentaire. C'est des émissions qui demandent énormément de temps de travail. Au-delà des petites vignettes que vous voyez aujourd'hui, il y a des semaines et des semaines de cogite derrière. Et donc, j'espère que ça pourra vous aider dans votre propre réflexion. Et dans cet apprentissage constant et sans fin qui forge l'ego et qui nous fait systématiquement redescendre sur terre quand on commence à se prendre pour quelqu'un qu'on n'est pas sur les marchés, le marché est toujours là pour nous rappeler à l'ordre. Je vous dis à très bientôt et merci encore à tous pour votre soutien. Ciao, ciao.